Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission santé. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Malgré le confinement, le docteur Jimmy Mohamed et moi-même, nous restons mobilisés, et toute l'équipe de Sans rendez-vous, bien sûr, mobilisée pour répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez. Jimmy, vous êtes là, bonjour.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors, au programme aujourd'hui, d'abord nous appellerons le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous faisons le point régulièrement avec lui sur le niveau de tension à l'hôpital. Nous lui demanderons également son avis sur le plan de déconfinement qui va être sous peu présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Il nous donnera surtout sa vision des choses pour l'après 11 mai. Après ça, nous donnerons la parole à un diabétologue, le professeur Ronan Roussel, chef de service à l'hôpital Bichat. Avec lui, nous tenterons de comprendre pourquoi les patients diabétiques sont plus à risque vis-à-vis de ce virus. Il nous dira aussi ce que ces malades doivent faire en ce moment en cas de situation d'urgence et pourquoi la télésurveillance est un outil très précieux pour eux. Ensuite, nous ferons un focus sur les addictions en période de confinement. Les accros aux jeux d'argent notamment ont le plus grand mal en ce moment. Les sites de jeux en ligne enregistrent une fréquentation record. Nous parlerons aussi cannabis, tabac et pour cela, Nathalie Latour, déléguée générale de la Fédération Addiction, sera notre invitée. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, qui va nous parler aujourd'hui de ces couples qui étaient en difficulté avant tout ça, avant cette crise sanitaire, et qui au final se retrouvent, se redécouvrent grâce au confinement.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Bruno Mégarban, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Je rappelle que vous êtes médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris. Alors, on a pris souvent de vos nouvelles dans cette émission. On est content de vous entendre à nouveau. Vous qui êtes en première ligne depuis le début de cette épidémie avec des patients très graves dont vous avez la charge, comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'on fait le point chaque fois et chaque fois c'est un peu différent. Aujourd'hui, on en est où chez vous?
Alors effectivement, on va dire la pression sur l'hôpital et notamment sur les services de médecine et d'urgence ainsi que sur les services de réanimation a nettement diminué par rapport à il y a 15 jours. Nous avons désormais le nombre de places suffisantes pour accueillir la totalité des patients infectés par Covid qui se présentent. Néanmoins, dans les services de réanimation, la charge de travail reste encore extrêmement élevée parce que des patients très graves, bien plus graves que ceux habituellement pris en charge, sont toujours présents. Par ailleurs, le nombre de lits est encore extrêmement élevé en Île-de-France. Nous sommes encore au-delà du capacitaire habituel, avec des lits toujours ouverts dans des zones qui habituellement n'étaient pas dédiées à la réanimation.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et en ce qui concerne, donc là vous avez dit que la situation est compliquée, mais en termes de mortalité, on a le gouvernement qui évoquait 10% de mortalité en réanimation et les données du réseau européen de recherche en ventilation artificielle nous annoncent des chiffres aux alentours de 30 à 40%. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, dans votre service aussi ?
Alors tout à fait, on va dire, nous constatons effectivement une mortalité de l'ordre de 30% actuellement. Alors le chiffre qui avait été annoncé au début par la Direction Générale de la Santé de 10% correspondait aux observations initiales. Au départ effectivement, un certain nombre de patients sont décédés relativement rapidement, essentiellement de causes cardiovasculaires, par embolie pulmonaire. Ceux qui présentaient le syndrome de détresse respiratoire aiguë étaient intubés, ventilés et donc étaient maintenus en vie grâce à la ventilation mécanique, voire à l'oxygénation extracorporelle. Le problème, évidemment, avec le temps, un certain nombre de ces patients, malheureusement, décèdent, ce qui augmente le taux de décès. Il est prévisible, d'ailleurs, que avec le temps, ce taux de décès augmente encore
oui,
puisque les patients les plus graves sont toujours en réanimation.
Moi, j'ai entendu des réanimateurs qui parlent même des réanimateurs qui parlent même de 50% déjà dans leur service. Ça dépend, c'est pas partout pareil.
Alors tout à fait, ça dépend effectivement. On va dire ce qu'il faut savoir, c'est que un certain nombre de données ont été publiées dans la littérature médicale. En Lombardie, le chiffre de 26% de mortalité en réanimation a été publié, mais au moment de cette publication, 59% des patients étaient encore en réanimation. Donc évidemment, c'est un chiffre extrêmement précoce. Et en Chine, à la fin de l'épidémie, au final, il y avait 50% de décès en réanimation. Donc c'est très probablement, on va s'orienter vers un tel chiffre à la fin de l'épidémie.
Quel que soit le chiffre, professeur McGarban, qu'on aura au final pour cette mortalité en réanimation, c'est un chiffre qui nous paraît de toute façon énormissime à nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a d'autres maladies, je ne sais pas, infectieuses, qui provoquent un tel taux de mortalité en réanimation ?
Alors, effectivement, on va dire le tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë est, en fait, a beaucoup de causes différentes. Et globalement, déjà en soi, son taux de létalité est de l'ordre de 30%. Effectivement, pour certaines causes, la mortalité est un peu plus basse, pour d'autres plus élevée, mais on a l'impression quand même que le coronavirus est un virus particulièrement dangereux parce que non seulement il donne cette atteinte respiratoire, mais en plus d'autres atteintes d'organes, le rein, le cerveau, la coagulation, le système cardiovasculaire. Et de ce fait, évidemment, il aggrave le risque de décès. Par ailleurs, les lésions pulmonaires avancées pourraient se révéler peu réversibles, contrairement à d'autres étiologies, d'autres causes, et malheureusement alourdir le fardeau de décès par des patients qui vont développer des séquelles extrêmement importantes, incompatibles avec la vie.
Oui, donc on l'a compris, une maladie qui est quand même très très complexe, hein. C'est bien loin de ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Jimmy Mohamed.
Alors hier, professeur, on a eu une nouvelle plutôt encourageante du côté de la recherche. La PHP a publié justement un document, alors qu'il doit être soumis à un comité de lecture. Ensuite, pour l'instant, c'est qu'un document préliminaire montrant que chez certains patients graves, le tocilizumab permettrait d'éviter des passages en réanimation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors tout à fait. Donc effectivement, l'infection par coronavirus se caractérise, lorsque les choses sont un peu plus sérieuses, par deux phases. Une première phase que l'on appelle virale, où le virus se réplique. Alors essentiellement au niveau de la gorge, donc du nasopharynx. Et puis généralement pour 80% des personnes, les choses s'arrêtent là. Pour un certain nombre de patients, donc environ 20%, la réponse immunitaire de l'hôte pour se défendre contre ce virus en réplication va entraîner une aggravation supplémentaire, notamment sous la forme de pneumonie. À ce moment-là, évidemment, le patient va ressentir un essoufflement et un manque d'oxygène qui va l'amener à l'hôpital. Eh bien, chez ces patients qui présentent une pneumonie, il y a un risque d'aggravation encore ultime, c'est-à-dire de nécessiter de devoir être intubé, ventilé, voire même un risque de décès. Et donc, pour la première fois, effectivement, il semblerait, avec cette nouvelle étude conduite par l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, qu'un médicament qui est un immunomodulateur, le tocilizumab, eh bien, ce médicament pourrait atténuer ce risque. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous ne disposons pas, évidemment, de l'ensemble des données pour savoir dans quelle amplitude cette atténuation se fait. Mais
ça évite d'aller en réa, hein, c'est ça. Ça évite de finir dans votre service.
Exactement. Exactement. Alors, on va dire, par rapport, il faut savoir que c'est une étude qui a été faite avec un groupe comparateur. Donc, la moitié des patients ont reçu ce produit et la moitié des patients n'ont reçu que les traitements habituels sans ce produit. Et
c'est un médicament, on est d'accord, docteur, qui n'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qui est utilisé en rhumatologie, je crois. Hein. Donc, on le connaît un peu, ce médicament, quand même. Oui.
Exactement, c'est un médicament qui est déjà utilisé dans certaines maladies, notamment rhumatismales, comme la polyarthrite rhumatoïde. C'est un médicament injectable. Donc évidemment, il ne faut pas imaginer que c'est le traitement à domicile du Covid, comme si c'était un antibiotique qu'on va prendre par la bouche lorsqu'on développe l'infection. Ce n'est pas du tout ça. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de traitement effectif pour guérir la maladie. Par contre, dans certains cas, et probablement ce nombre de cas est relativement limité, c'est peut-être de l'ordre de 5% des patients, et bien là, on pourrait éviter une aggravation des choses.
Oui, on l'a compris. Alors, pas le traitement miracle, mais une piste prometteuse. Merci professeur McGarban, on n'a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec une émission toujours consacrée à l'épidémie de coronavirus. Le professeur Megarban, médecin réanimateur, reste avec nous alors que les détails du plan de déconfinement sont présentés en ce moment même par Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. Nous allons parler justement de cet après 11 mai avec notre invité. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans Rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h pour répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. Et justement, vos questions, vous pouvez nous les laisser au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. C'est 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors, il est toujours en ligne avec nous, professeur Bruno Megarban. Vous êtes médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris. Professeur, le plan de déconfinement, il est en train d'être présenté là par le Premier ministre en ce moment même à l'Assemblée. D'abord, juste cette date, peut-être avec vous, du 11 mai, vous qui êtes en première ligne, avec en charge les patients les plus graves, on l'a compris, vous la redoutez, cette date, cet après 11 mai ?
Alors, on va dire, il faut bien comprendre que le confinement strict a été décidé car l'épidémie a connu une diffusion extrêmement importante avec le risque que le système de santé, notamment les services de réanimation, soit débordé et ne puisse prendre en charge de façon adaptée les patients. Et donc, il a fallu, permettre un freinage important de l'épidémie pour permettre aux services de santé de récupérer. Donc c'est le cas actuellement avec la baisse de la pression sur nos services et la réduction du nombre de patients hospitalisés. Maintenant, évidemment, l'épidémie ne va pas disparaître pour autant.
On va enlever ce coup de frein dont vous parlez. C'est ça l'idée. Donc est-ce que ça ne va pas...
Évidemment. Il faut malheureusement apprendre désormais à coexister avec ce virus qui va rester en circulation peut-être pendant encore un certain nombre de semaines, voire de mois, puisqu'on peut imaginer que s'il ne disparaissait pas spontané, seule la mise en place d'un vaccin permettrait d'arrêter sa diffusion. Mmh. Et donc effectivement, il faut que cette sortie du confinement strict se fasse de la façon la plus optimale. Et donc nous attendons tout à l'heure l'annonce d'un certain nombre de mesures générales de stratégies sanitaires qui seront à décliner par la suite au niveau local par l'ensemble des directions, des préfectures et des mairies.
On aura les détails
évidemment.
très rapidement. Docteur Jimmy Mohamed.
Oui, professeur, en parlant justement du retour progressif à la vie, alors Edouard Philippe, a priori, va aussi annoncer le fait qu'on ne retournera pas au lycée, les écoliers n'iront pas au lycée, les écoles seront fermées, mais le gouvernement n'a quand même pas suivi initialement l'avis du conseil scientifique qui était pour ne pas ouvrir les écoles avant le mois de septembre. Quel est votre avis là-dessus ?
Alors, c'est une question complexe. Effectivement, nous avions été surpris lors de l'annonce initiale de la réouverture des écoles. Maintenant, les arguments qui ont été mis en avant étaient tout aussi évidemment importants. C'est-à-dire, bien sûr, permettre une certaine reprise de l'activité économique parce qu'il y a évidemment la menace du chômage, de la crise sociale et économique. Mais aussi, éviter, des problèmes d'inégalité entre les enfants, ceux qui peuvent se permettre de suivre les cours à distance et les autres. Alors, on va dire, quelques nouvelles quand même plus rassurantes sont arrivées depuis, montrant et suggérant que les enfants sont finalement ceux qui se contaminent le moins et qui propagent le moins l'infection. Et donc, effectivement, un certain nombre d'études ont été effectuées et semblent montrer qu'à l'école, la diffusion se fait essentiellement des adultes vers les enfants plutôt que des enfants entre eux et que... Il est possible que, bien sûr, en prenant de façon assez stricte un certain nombre de mesures, barrières, en améliorant bien sûr la qualité de l'hygiène à l'école, eh bien que finalement, quand on regarde les avantages par rapport aux inconvénients, la réouverture des écoles soit plutôt quelque chose d'important. Alors, aussi, d'autres pays autour de nous ont choisi cette stratégie, donc je crois qu'en soi, c'est plutôt quelque chose qu'il faut tenter parce que en plus ça va permettre d'apprendre à l'ensemble de la jeunesse les mesures barrières et de
bien
prendre
sûr,
un certain nombre
Et professeur Megarban, voilà. Nos enfants, ils ont déjà appris pas mal de choses. Là, c'est sûr, ces 6 dernières semaines, même les plus petits, enfin, c'est évident, le lavage des mains, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans leur tête. Ils n'avaient pas l'habitude, on leur a bien fait rentrer ça dans la tête. Ce que je veux dire, professeur Megarban, c'est que notamment, certains parlent peut-être de masques obligatoires au collège, au lycée, mais pas dans les plus petites sections, on va dire.
Exactement.
On parle peut-être de masques pas obligatoires, mais de masques pédiatriques chez les plus petits. Franchement, des enfants qui portent des masques, c'est pas. Enfin, qui portent bien des masques, c'est ça. C'est pas si simple que ça de porter un masque, on est d'accord. C'est pas possible pour des
petits. Alors, tout à fait. Non, je crois qu'effectivement, en maternelle, mettre des masques, ça serait complètement ridicule.
Mais en CP ou CE1, je suis pas sûr, franchement.
Alors, voilà. Donc, je crois que. Bon, je ne suis pas personnellement pédiatre pour me prononcer définitivement sur ce sujet. Mais je crois qu'il y a. On va dire, le gouvernement va donner, bien sûr, un certain nombre d'indications après avoir consulté des spécialistes sur le sujet. Maintenant, c'est aussi le moment, peut-être, de mettre en place et d'inventer des nouvelles façons de faire qui vont devoir nous accompagner désormais bien pendant sûr. Encore un certain nombre de mois pour éviter à ce virus de rediffuser comme cela avait été le cas initialement.
Docteur Jimmy Mohamed, une dernière question.
Oui, professeur, dernière question. En ce qui concerne le tabac et la nicotine, est-ce que vous observez, vous aussi, avoir moins de fumeurs que de non-fumeurs dans votre service? Et est-ce que vous avez justement un avis sur cette histoire de nicotine qui serait peut-être protectrice? Et alors, je mets d'énormes guillemets dans ma question.
Alors, tout à fait. C'est effectivement une question intéressante qui a été soulevée récemment. Alors, pour commencer ma réponse, je dois quand même rappeler que le tabac, évidemment, a un impact sur la santé respiratoire, sur les maladies cardiovasculaires, voire même sur le système immunitaire extrêmement délétère, avec, on estime, à peu près 200 morts par jour liées au tabac.
Là-dessus, il n'y a plus de débat.
Ouais. Ce qui est clair, c'est que le fait d'être fumeur, entraîne une maladie Covid plus grave, et notamment évidemment si on a une atteinte respiratoire, ce que l'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO, et bien
mais
là
si on l'attrape,
on a
le parce
COVID,
qu'il semble que les fumeurs l'attrapent moins.
Tout à fait. Alors voilà. Effectivement, donc si on l'attrape et qu'on est fumeur, là les chiffres sont très clairs, on développe une forme plus grave en réanimation avec un risque de décès plus important. Maintenant, effectivement, est-ce que les fumeurs ont moins de risques d'attraper le coronavirus que les non-fumeurs? Alors, c'est vrai qu'un certain nombre d'études statistiques épidémiologiques semblent le suggérer, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en France. On a l'impression que le pourcentage de fumeurs parmi les personnes infectées par le coronavirus est inférieur à ce qu'il ne devrait être dans la population générale. Alors, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas évidemment si c'est une diminution de l'incidence de l'infection ou de l'incidence des symptômes. Parce qu'évidemment, on mesure chez des patients qui ont des symptômes. Voilà. Donc, on va dire, c'est vrai qu'il y a une certaine piste, alors qui pourrait suggérer peut-être que la nicotine, en tout cas les récepteurs à la nicotine, auraient un rôle dans la diffusion du virus. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ça est très hypothétique.
Rien en conclure,
et
il
n'y a aucune preuve dans ce sens. Aucune. Donc évidemment, il ne faut surtout pas se mettre à fumer pour éviter d'attraper le coronavirus.
Évidemment, une piste avec encore beaucoup d'études à la clé. Merci beaucoup, professeur Megarban, d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci une nouvelle fois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons donner la parole à un diabétologue. Le professeur Ronan Roussel sera avec nous. Il est chef de service à l'hôpital Bichat. Avec lui, nous tenterons de comprendre pourquoi les patients diabétiques sont plus à risque vis-à-vis de ce virus. Il nous dira aussi ce que ces malades doivent faire en ce moment en cas de situation d'urgence. Restez sur Europe 1.
Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, nous accueillons par téléphone le professeur Ronan Roussel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de diabétologie à l'hôpital Bichat à Paris. Avec vous, pourquoi on va s'intéresser justement aux diabétiques, évidemment. Pourquoi sont-ils considérés comme plus à risque depuis le début de cette épidémie? Qu'est-ce qui, finalement, physiologiquement, explique cette fragilité qu'ils auraient, eux, par rapport aux autres?
Alors, avant de même de l'expliquer, le fait épidémiologique de cette association, d'où il sort des premières études chinoises et après confortées par les études américaines et italiennes, et maintenant les études françaises, effectivement, il y a plus de diabétiques dans les populations avec forme sévère. cela dit, ce n'est pas le seul trait qui caractérise ces formes sévères. Et on a cherché à savoir ce qui expliquait. On n'a pas toutes les explications. Il y a des pistes. Le diabète mal contrôlé, par exemple. Est-ce que le fait d'avoir la glycémie très élevée vous fait courir un risque supplémentaire? Est-ce que le fait d'avoir tel ou tel médicament, et on pense en particulier à l'insuline, vous fait courir un risque supplémentaire? En fait, sans avoir la réponse définitive, puisque toute cette recherche est en cours, on a l'impression que c'est à nouveau le surpoids qui est plus fréquent dans certains types de diabète, le diabète de type 2 qui arrive en général plus à la maturité et qui s'accompagne d'autres problèmes de santé comme l'hypertension artérielle fréquemment, etc. C'est ce surpoids qui semble tirer le risque des diabétiques vers le haut éventuellement.
D'accord. Jimmy Mohamed, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on a l'impression, professeur, que ça dépend aussi de l'équilibre du diabète, de l'ancienneté du diabète? Est-ce qu'un diabète de type 1 parfaitement équilibré est aussi à risque, c'est-à-dire un patient qui est sous insuline, qu'un diabète de type 2 mal équilibré? Est-ce que vous avez des données ou un petit peu de recul à ce propos?
Alors, la réponse formelle à ça va venir très bientôt d'une étude française qui est en cours, et alors que, à ma connaissance, aucun autre pays soit si avancé. Une étude qui s'appelle Coronado et qui cherche à décrire les caractéristiques des patients qui sont diabétiques hospitalisés pour le Covid. On a simplement une première impression qui est que l'équilibre du diabète ne semble pas jouer un rôle très important dans le Covid lui-même. Mais ça sera donc, il faudra attendre encore quelques jours la publication des résultats de cette étude. Ce qui est certain, c'est que l'équilibre du diabète en général est très important pour le pronostic des diabétiques, au-delà de cet épisode de Covid, pour les problèmes au niveau des yeux, du cœur, des reins, etc., des diabétiques. Donc l'équilibre glycémique n'est certainement pas à négliger, en particulier actuellement, où il est difficile d'avoir de l'aide des soignants. Il faut mettre des systèmes en place.
Professeur Roussel, justement... Un patient diabétique aujourd'hui qui commencera à avoir des symptômes de Covid, comment il doit réagir? Est-ce que vous arrivez d'ailleurs à continuer la prise en charge même habituelle de ces patients?
Alors effectivement, c'est deux points importants. Alors peut-être le premier, s'il a des symptômes de Covid, il faut qu'il se surveille, sachant que potentiellement il est plus à risque. Beaucoup des patients diabétiques ne sont pas plus à risque, mais que potentiellement ce risque existe. Il faut se rapprocher encore plus que les autres de son médecin, de décrire les symptômes. Ça se peut se faire par une téléconsultation et puis éventuellement du 15 si les symptômes sont plus sévères. On a d'ailleurs mis en place à l'hôpital Bichat avec nos collègues de Cochin et Larry Boisière une application qui s'appelle Covidiab, de façon à les renseigner sur la nature des symptômes et la nature des risques qui courent et comment les protéger, effectivement.
Avec le docteur Boris Sancel qui était venu nous en parler. Oui.
Exactement, mon collègue Boris Sancel. Le deuxième point, c'est la prévention du déséquilibre du diabète et de garder le contact. Alors, vous savez que quand on a du diabète, on surveille sa glycémie, et donc ça, c'est un point important. Dans toute situation de stress, et le risque de Covid en est une, le confinement en soi en est une également, il faut mieux contrôler le diabète, et comme on ne sent pas à quel niveau de taux de sucre on a, il faut le mesurer avec les appareils qui sont mis à sa disposition par les médecins. Surveiller plus fréquemment. Ensuite, il faut rester en contact, et pour ça, son médecin traitant et son diabétologue ont les outils qu'ont les autres médecins, à savoir le téléphone naturellement, mais également la téléconsultation par vidéo. Et surtout dans le cas du diabète, un outil qui est extrêmement utile, qui est celui de la télésurveillance, qui permet à travers des plateformes qui sont extrêmement pratiques parce qu'ils se résument à une application sur le téléphone du côté du patient et un site internet sécurisé du côté du médecin, qui a un tableau de bord avec les différents patients qu'il suit, et ainsi va pouvoir accéder aux glycémies mesurées par le patient à son domicile dans la routine de sa surveillance du taux de sucre. Et bien automatiquement, du glucomètre, la donnée va remonter à l'application par Bluetooth ou elle va être.
C'est l'appli qui s'appelle DiabNext, hein, je crois, c'est ça?
Alors, DiabNext en est un très bon exemple qui va permettre la plateforme côté médecin, pardon, de DiabNext va permettre de voir des courbes de glycémie sous les yeux comme s'il partageait le glucomètre au-dessus d'un bureau, d'un box de consultation, et il va pouvoir échanger comme on échangerait de vive voix lors d'une consultation. On va pouvoir le faire soit à travers une messagerie du type WhatsApp, qui est intégrée à l'application DiabNext ici, soit par des téléconsultations, ce qui est un outil de vidéo consultation à l'intérieur de cette plateforme, qui est donc d'une commodité extrême pour les patients, qui est extrêmement rassurant pour les patients et qui permet de guider à distance et de rassurer également les patients qui sont en particulier sous insuline.
Merci beaucoup, professeur Roussel, d'avoir été avec nous pour ce point très important donc sur les patients atteints de diabète et les solutions qui sont mises à leur disposition pour que leur prise en charge reste optimale, même au milieu de cette épidémie. Merci encore.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, votre émission santé revient et à présent, on va essayer de venir en aide à ceux qui ont des problèmes d'addiction, tabac, cannabis ou même jeux d'argent. Avec le confinement pour les addicts en tout genre, tout est plus compliqué. Pour en parler, Nathalie Latour, déléguée générale de la Fédération Addiction, sera notre invitée. Mais avant ça, on va se détendre avec un peu de musique. On va écouter le groupe, le duo même, Chagrin d'amour, avec Chacun fait ce qui lui plaît.
Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait, ce qui lui plaît.
Précipice et tout bout.
Précipice, on s'en fout. Chacun fait, ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent.
Quelles ont à dire les étoiles? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maraud, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y'a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fille. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je dis ça me tend.
Et vous êtes rentré comment?
Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio.
Chacun fait, ce qui lui plaît.
Que de pression dans les bars.
Personne ne te pousse à voir. Chacun fait, ce qui lui plaît,
Légende, c'est manie.
C'est égalcomanie.
7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sur le tendon. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc cassé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure.
Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé?
Non, vraiment pas.
Chacun fait, ce qui lui plaît, plaît.
Sous mes pieds, il y a la terre.
Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, ce qui lui plaît, plaît.
Mon Dieu, je peux même pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir.
C'était le duo Chagrin d'amour, vous l'avez reconnu avec leur morceau célèbre sorti en 1982. C'était Chacun fait ce qui lui plaît.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. À présent, nous allons prendre en ligne tout de suite Nathalie Latour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de la Fédération Addiction. Nathalie, ce que nous vivons tous en ce moment, depuis plus de 6 semaines maintenant, j'imagine que pour les personnes qui souffraient déjà d'addiction ou qui étaient peut-être pris en charge déjà pour lutter, je ne sais pas, contre le tabac, c'est une période à haut risque.
Oui, c'est une période à haut risque, une période difficile, comme tout le monde. Hein, on est dans un contexte un peu d'angoisse, d'anxiété, on a perdu nos repères, on n'a plus nos lieux de sociabilité, on a forcément des suivis qui se sont maintenus, mais qui ont dû s'adapter à la période de confinement. Donc on a un petit peu, déjà pour les personnes qui étaient en difficulté, mais je dirais même en population générale, des ingrédients qui sont pas évidents par rapport à notre rapport sur tout ce qui est substance un peu psychoactive.
Bien sûr. Alors justement, on va commencer peut-être par parler de tabac et cannabis. Alors tabac, peut-être d'abord, pour ceux qui avaient arrêté, alors je sais de quoi je parle, hein, la tentation de reprendre, ça a été le cas, moi, la première semaine du confinement, avec le stress peut-être, et puis il fallait s'organiser, s'installer en télétravail, faire une émission depuis chez soi, c'était pas évident. Et l'envie de fumer est revenue, j'ai tenu bon grâce à des substituts et à la cigarette électronique, mais est-ce que c'est normal d'avoir, même quand on a arrêté depuis 4 mois, 5 mois, est-ce que vous avez des retours de patients comme ça, sevrés au niveau tabagique, mais qui ont eu des difficultés avec le confinement?
Bien sûr, c'est normal, c'est exactement ce que vous avez décrit et votre expérience est assez universelle. C'est-à-dire que quand on est déstabilisé et qu'on doit remettre en place en fait un certain nombre de repères. Par exemple, quand vous êtes chez vous, c'est beaucoup plus facile d'avoir le réflexe de la pause cigarette. Vous voyez, vous n'avez pas le fait de pouvoir, par exemple, des fois sortir. Ou vous avez tout un ensemble de rythmes à remettre en place et donc de façon, je dirais, légitime. Il y a une petite période de déstabilisation. Donc oui, nous on l'a senti, on a eu des appels et c'était un moment où c'était important de pouvoir soutenir les personnes qui, je l'espère, en tout cas comme vous, ont réussi à passer le cap. Et puis pour certaines, ça a été aussi l'occasion justement, une fois qu'elles se sont stabilisées, alors qu'elles fumaient, de se dire pourquoi pas, je pourrais peut-être aussi utiliser cette période-là pour essayer finalement d'arrêter le tabac. D'accord. Pour certaines personnes, ça a pu être aussi un élément déclencheur.
Docteur Jimmy Mohamed.
Beaucoup de patients se plaignaient justement ou se plaignent de la fermeture des cabinets, pas simplement des addictologues, mais en de règle générale. Est-ce que vous avez réussi, vous, à continuer vos consultations? Et je crois que notamment la téléconsultation, ça a été un outil assez intéressant pour vous adapter justement au confinement.
Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, c'est, je pense, un enseignement qu'on pourra conserver après, même post-crise. C'est-à-dire qu'on a énormément maintenu et c'était indispensable parce que pour toutes les raisons que disait Mélanie, il y a eu quand même beaucoup de difficultés pour les individus, dans les familles aussi, avec les publics jeunes, etc., de gérer la promiscuité, le confinement, le rapport à sa dépendance ou à sa difficulté de se passer du produit, notamment de la question du cannabis, et il fallait absolument être présent. Donc tout ce qui était téléconsultation a été fortement utilisé.
Et en addicto, ça s'y prête particulièrement, parce que finalement, on a besoin de parler avec son praticien, et quand on se voit en vidéo, c'est presque comme si on se voyait en consultation, non? Enfin, il n'y a pas besoin tellement de que vous touchiez, que vous auscultiez. Enfin, en addicto, c'est bien, non, je pense, enfin, j'imagine.
C'est bien pour une grande majorité de situations. Après, il y a plein de choses qu'il faut qu'on continue sur la question de la confidentialité, sur la façon dont on se positionne par rapport à la caméra. Mais voilà, quand on fait des entretiens cliniques, mais on a beaucoup progressé là-dessus et on va continuer à progresser. Et puis, il y a certaines situations où il faudra toujours, pour x, y raison, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le rapport, le contact physique, parce qu'il y a des choses qu'on doit quand même faire en termes d'examen. Mais oui, c'est en tout cas un levier supplémentaire dans la palette de réponses qui finalement part, comme tout le monde, on est obligé de s'adapter et c'est peut-être quelque chose qui a bousculé les pratiques professionnelles en bien pour la suite aussi du travail avec les patients.
Jimmy ?
Alors, des faits, j'appelle même pas ça des études, montrent que, apparemment, la nicotine, ou en tout cas, les fumeurs seraient protégés du coronavirus. Je mets ça avec d'énormes guillemets, puisqu'on n'a absolument aucune preuve. Est-ce que vous craignez, justement, que, comme on a poussé la communication à outrance, ça pousse certaines personnes à fumer ou certains fumeurs à replonger?
Oui, c'est une crainte. C'est-à-dire que il faut vraiment faire de la pédagogie et expliquer que ce qui pourrait être protecteur, hein, puisqu'il faut encore finir de faire les études, c'est la nicotine. Et la nicotine, c'est pas du tout le tabac fumé. Le tabac fumé est très néfaste déjà globalement pour la santé. On connaît le nombre de millions de morts dues au tabac, et on sait que c'est un facteur aussi, le tabac fumé, qui n'est pas bon par rapport à la question du Covid. Donc il faut vraiment distinguer ce qui est nicotine et ce qui est tabac fumé. Et on a été obligé, le ministère a pris un arrêté parce qu'il y a eu un peu une ruée sur tous les patchs nicotiniques et pas forcément.
C'est pareil, ce sont des médicaments et c'est pas pour les non-fumeurs, on est d'accord. Hein.
Voilà, exactement. Voilà. Et donc pour limiter, et ça aussi c'est un souci parce que les gens qui sont en train d'arrêter de fumer, ils ont besoin aussi d'avoir accès aux patchs.
Bien sûr. Nathalie Latour, un mot peut-être pour terminer cette partie-là sur l'addiction au cannabis. Ceux qui sont retrouvés confinés, parfois, je ne sais pas, des adolescents accros à cette substance en famille, ça a dû être compliqué. Vous avez eu des retours du côté de cette consommation. Comment ça s'est passé? Et quels conseils rapidement on peut donner à ceux qui sont en difficulté de ce point de vue-là?
Oui, on a eu des retours et c'est le confinement a pu être révélateur pour certains que finalement ils pensaient avoir une consommation plutôt récréative, qu'ils arrivaient à maîtriser, etc. Et malheureusement, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas aussi simple que ça. Donc ça a créé pas mal de situations familiales conflictuelles. Je pense que ce qui est important, c'est justement d'être attentif à ne pas faire de trop grands reports sur d'autres produits. On voit qu'il y a pas mal de reports sur le tabac ou sur l'alcool par rapport à la question du
attention
du
avec
cannabis.
Ça aussi, ouais.
Attention avec ça aussi, voilà, de pas trop reporter et dévier. Et surtout que ce soit les parents, la famille, l'entourage ou les personnes qui sont directement concernées, il y a un numéro vert. Les numéros verts sont là, ils sont disponibles, hein, drogue infoservice, alcool infoservice, pour que les personnes puissent appeler. Et c'est toujours possible d'être en lien avec une consultation jeune consommateur.
Merci Nathalie Latour. On n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, avec la déléguée générale de la Fédération Addiction qui reste avec nous, on va parler justement d'autres problématiques, la problématique des jeux d'argent. Les sites de jeux en ligne enregistrent une fréquentation record. Comment aider ou se faire aider quand on a ce type de problème, surtout quand on est confiné chez soi? On en parle juste après, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, elle est toujours en ligne avec nous, Nathalie Latour. Vous êtes déléguée générale de la Fédération Addiction. Alors, Nathalie, depuis plus de 6 semaines, notre quotidien, il est bouleversé. Ça, on l'a bien compris tous. On est pour beaucoup confinés. Quand on est chez soi, on peut être tenté tous de surconsommer les écrans. Est-ce qu'il y a une crainte déjà de ce côté-là? Pour vous, les addictologues, ça peut être une véritable addiction, les écrans, que ce soit Netflix, les jeux vidéo, enfin tout ça?
Alors ça, c'est toujours des débats importants sur est-ce que c'est une addiction ou pas une addiction. Ce qui est important, c'est de se mettre effectivement là aussi des repères et des règles pour pas que ça envahisse, on va dire, tout le quotidien et qu'on sente qu'on perd un peu pied sur des choses où on a de plus en plus de mal à lire autre chose que sur des écrans ou de se dégager des jeux vidéo. Après, ce qu'on remarque, donc, ça peut être aussi des moments positif de, par exemple, pour des parents, de découvrir des univers de jeux vidéo qu'ils ne connaissaient pas avec leurs enfants. Et on sait que c'est un des éléments aussi protecteurs de pouvoir rentrer dans l'univers des jeux vidéo avec ses plus jeunes enfants. Nous, ce qu'on voit surtout monter, c'est plutôt une problématique sur les jeux de hasard et d'argent.
D'accord, oui, c'est ça justement. Jimmy Mohamed.
Bah parce que attendez, juste pour revenir un dernier mot sur les jeux vidéo, est-ce que à partir de quand considère-t-on qu'un enfant a un problème de comportement vis-à-vis des jeux vidéo? Moi, je milite pour acheter une Nintendo Switch, ma femme ne veut absolument pas, mais où se trouve la frontière où on se dit bon bah non, là ça y est, là c'est trop, on a un problème avec les jeux?
Je pense que en fait, le problème en tant que tel, c'est pas l'objet, hein, c'est toujours comment on positionne l'objet et la place après que prend l'objet ou le produit dans la place de tout à chacun. Donc c'est normal de vouloir une Nintendo ou de vouloir jouer aux jeux vidéo dans notre époque. Après, c'est quelles sont les règles, le cadre qu'on arrive à mettre en place et quelles sont la possibilité pour les personnes de le respecter et d'arriver à suivre ça. Quand on sent encore une fois que ça prend toute la place ou le quotidien, que
j'allais dire pour des parents qui nous écoutent, qui ont un adolescent dessus toute la journée H24, à partir de, je sais pas, il y a un nombre d'heures, à partir de quand ou quand il nous parle plus, c'est quoi le gradient pour un parent pour se dire tiens, mon enfant a un problème?
Oui, je pense que c'est pas tant le nombre d'heures, même si effectivement on se rend compte que si sur une journée de 8 heures, la totalité des 8 heures sont sous les écrans, on peut commencer un petit peu effectivement à mettre le haut là, parce que ça peut aussi être des heures, surtout actuellement, qui peuvent être intéressantes parce que en lien avec d'autres amis qu'on ne peut plus voir, etc. Donc ça dépend de la qualité, on va dire, de la relation autour du jeu et de la qualité de est-ce que l'enfant se referme de plus en plus sur lui, est-ce qu'il est de plus en plus isolé, est-ce que on est dans une situation de conflit permanente dès qu'on met des limites. Vous voyez, c'est plutôt ce petit indicateur qu'il faut avoir.
Alors vous l'avez dit, Nathalie Latour, autre inquiétude pour vous du côté des addictologues, ce sont les jeux d'argent en ligne. Alors les paris sportifs sont à l'arrêt et donc du coup, enfin on ne sait pas si c'est vraiment lié, mais probablement, il y a beaucoup de gens qui se sont reportés notamment sur les sites de poker en ligne. Je vous donne un chiffre, plus de 200 000 comptes de poker en ligne créés depuis le confinement. Il y en avait 300 000 au départ. Ça veut dire que maintenant il y a 500 000 comptes de poker en ligne en France. C'est incroyable ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont quand même des problèmes, parce que ça peut être récréatif, hein, certes, hein, mais ça fait beaucoup de gens là quand même.
C'est-à-dire que bien sûr que ça peut être récréatif et bien sûr que c'est avant tout un divertissement. Mais vous savez, plus vous ouvrez en fait une vanne large et plus vous avez la possibilité ensuite d'avoir des personnes qui peuvent développer un certain nombre de vulnérabilités et de fragilités. Et on sait que il faut être très attentif à ces questions de jeu de hasard et d'argent. Il faut être capable de fixer des limites, de budget, de temps, de paramétrer si on sent qu'on est un peu en perte de repères, des capacités de s'auto-exclure, d'être aussi attentif parce qu'il y a des sites légaux et des sites illégaux, et notamment tout ce qui est machine à sous. Et c'est vraiment un des espaces très addictifs, hein, la machine à sous, et qui ne sont pas sur sites légaux. Donc ça fait partie des choses où, encore une fois, il ne faut pas tomber dans le fait de dire on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus rien faire. Mais il faut développer une vigilance pour que ça reste justement du côté du divertissement et non pas d'un cercle un peu où on va se dire je vais me refaire, je vais gagner de l'argent, je vais y arriver, je vais remiser, etc., etc.
Justement, une dernière question, Jimmy, sur ce point.
Oui, comment est-ce qu'on fait justement quand on est confiné, qu'on a ces écrans justement où on a des jeux en ligne, on est un peu addict, comment est-ce qu'on fait pour un petit peu se sortir le jeu de la tête? Est-ce qu'on doit, je sais pas, sortir un petit peu de la maison? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de se détacher de ça?
Je pense que c'est après à chacun de trouver. S'il y en a qui sont justement, ils veulent pas sortir parce qu'ils ont peur de sortir, etc., on peut avoir d'autres dérivatifs, c'est-à-dire qu'on peut faire soit des choses en famille, on peut prendre un livre papier, on peut faire une séance de relaxation, on peut aller faire sa gym dans son salon, dans sa chambre. C'est-à-dire que chacun peut après trouver ce qui peut être quelque chose qui lui fait faire une coupure et qui rythme sa journée sur autre chose que uniquement la question de l'accès à l'écran ou du jeu.
Et puis pour ceux qui en ont besoin, il y a toujours le site qui est disponible, un joueur info service pour avoir des informations et puis de l'aide éventuellement si besoin. Merci beaucoup Nathalie Latour d'avoir été avec nous pour ce point sur les addictions au cœur de cette crise sanitaire. Merci encore.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc qui va nous parler aujourd'hui de ces couples qui étaient en difficulté avant tout ça, avant cette crise sanitaire, et qui au final se retrouvent, se redécouvrent grâce au confinement. Mais d'abord, on va écouter un peu de musique. C'est Gregory Porter. Ça s'appelle Revival. I try to run, but I grow weary. I try to walk. You lift me high. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Vous venez d'écouter Revival de Gregory Porter sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question d'Adrien, je vous la lis, avec ma copine. Nous étions au bord de la séparation il y a 2 mois. Lorsque le confinement a commencé, je me suis dit que notre couple n'y survivrait pas. Mais contre toute attente, tout se passe pour le mieux. J'ai l'impression que l'on s'est retrouvés tous les deux. Comment l'expliquer ? Catherine, c'est dingue quand même, comment on explique ce renversement de situation, si on peut dire, ouais, c'est ça.
Mélanie est étonnée.
Je dirais que c'est aussi dingue que la capacité que nous avons quand nous nous rencontrons de trouver que nous avons des atomes crochus alors que nous sommes fondamentalement les uns des autres bien différents. En fait, ce qui se passe souvent pour nombre de couples, heureusement le confinement ne va pas être la déconfiture relationnelle et amoureuse, c'est aussi l'occasion pour les uns et les autres de redécouvrir ce pourquoi ils se sont aimés, c'est-à-dire tous les trucs qu'ils savaient partager, toutes les aides qu'ils savaient s'apporter, puisque ce qui fait le couple n'est pas simplement une séduction.
Moi je suis admirative, mais je pense qu'ils n'ont pas d'enfants, hein, c'est pas possible.
Alors voilà, mettez tout sur vos enfants, mais
il le dit pas, mais je sais pas, c'est renversement de situation en période de confinement.
Laissons-leur encore un mois de confinement, je vous assure que la question va changer, vous allez voir.
Ah non, ça, vous êtes aussi surpris que moi, Jimmy, des couples qui s'adorent comme
oui,
ça.
Oui, mais des couples sans enfants.
Ça rabiboche même.
Ouais, oui. C'est ça. Ignorant la vraie vie.
Excusez-nous, Catherine. On va vous laisser poursuivre. Non. Pardon.
Non, mais c'est très bien parce que moi, justement, je pense à des couples, et notamment un couple avec enfants et qui avait annoncé un divorce à la fin de la scolarité et qui, finalement, ne vont pas du tout dans cette direction-là suite au confinement, justement. Donc, c'est intéressant parce que ça rejoint la question qui m'est posée aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, c'est l'occasion aussi de voir ce que fait l'autre concrètement. Et pas seulement dans la direction
de son petit
plaisir. Ah tiens,
il est bon en bricolage. Ah tiens, finalement, elle s'est cuisinée.
Ou il me secourt sur ça, ou il n'a pas peur de ça, ou il m'épaule là-dessus. Ouais, c'est-à-dire que tout d'un coup, on réalise que finalement, on rêve toujours des champs plus verts et bien sûr, tout l'imaginaire de l'ailleurs. Mais la réalité, c'est que ces couples, ils se rencontrent sur une base qui est une base concrète de choses qui nous plaisent, et pas seulement un petit minois, et pas seulement un désir sexuel ou une excitation sur des choses purement sexuelles, corporelles. C'est aussi parce qu'on voit dans la même direction, parce qu'on a envie de fonder une famille, parce qu'on a des mêmes valeurs. Et là, tout d'un coup, quand on est réduite un peu à l'essentiel de nos vies, où on n'est plus dans le superficiel.
On va ensemble dans la même direction, du salon au canapé, du canapé à la cuisine.
C'est ça. Alors, vous êtes encore très dur, je vous signale.
Jimmy Mohamed, je suis sûr que vous êtes inspiré, vous aussi.
Mais oui, non, mais c'est parce qu'on a peut-être un peu moins de travail, que du coup on passe peut-être un peu de meilleurs moments et que on a du temps pour discuter. On a des vies parfois à 100 à l'heure, on part tôt le matin, on rentre tard le soir. On n'a pas le temps finalement de découvrir ou de redécouvrir l'autre. Donc c'est peut-être un moment privilégié, ce confinement, pour certains.
Oui, puis on voit l'autre travailler. Quand ils sont en télétravail, ils se voient travailler, ils voient la réalité de ce qui leur échappe en permanence. Ils se retrouvent pour échanger, déjeuner, dîner. Ils échangent les rôles en fonction de la disponibilité s'il est de travail. Ils voient combien c'est bon de pouvoir justement se sentir en lien et effectivement échanger sur le moment, sur ce qui vient de se passer, sur les interrogations qu'ils ont. Ils s'entraînent même pour des boulots qui ne sont pas les leurs, en donnant leur point de vue. S'ils se donnent ce droit à échange, bien sûr, tout d'un coup, ils réouvrent une communication. Or, le couple, rappelons-le, ce n'est pas parce que je suis sexologue qu'il faut imaginer une seule seconde que je considère que le couple ne se situe que dans la rencontre de la sexualité. Elle est résultat d'une autre rencontre, qui est la relation, la capacité d'échange, la créativité dans l'échange. Et quand je dis créativité, encore une fois, c'est de pouvoir élaborer une pensée et pas simplement pain beurre chocolat. Et puis tout d'un coup, on devrait sauter dessus. Ça n'existe pas, ça ne marche pas, ou alors ça ne marche que le temps d'une rencontre Tinder. Pas du tout dans le cadre d'une relation de couple.
Bon, écoutez, de toute façon, moi, je trouve quand même que c'est merveilleux, ces couples qui se retrouvent aussi pendant le confinement.
Bien sûr,
mais des bonnes nouvelles de temps en temps, c'est fabuleux. Non, non, mais vous inquiétez pas, chez moi aussi, tout va très bien. Mais c'est, ça fait plaisir aussi de voir des belles histoires dans ce confinement. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Merci, Jimmy. On se retrouve bien sûr dès demain, 15h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Et à présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour, Mathieu.